7-9.
Bienvenue sur France Inter, nous sommes le lundi 10 janvier. Anaïs Feuga, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, une moyenne de 300 000 nouvelles contaminations chaque jour. Mais le gouvernement assume de continuer à tester toujours plus. Reportage ce matin dans un laboratoire qui fait ce qu'il peut, on le verra. Le Sénat, lui, commence à se pencher sur le pass vaccinal. On voit ça, Anaïs, après les autres titres.
Nous irons en Australie, audience en ce moment à Melbourne, sur le cas Djokovic qu'on a suivi ici. Discussion tendue entre Américains et Russes à Genève, c'est le dossier de l'Ukraine. Et puis l'hommage en fin de journal à Jean Maheu, ancien PDG de Radio France et poète à 16h.
Invité rendez-vous d'Inter ce matin à 7h15, le Zoom de France Inter qui devient le feuilleton de la France pendant une semaine. Chaque mois, un nouveau rendez-vous 100% présidentiel pour écouter les Français dans leur quotidien, leurs préoccupations et leurs attentes. À 7h50, Léa Salamé.
Jane par Charlotte, c'est le très joli film que consacre Charlotte Gainsbourg à sa mère, Jane Birkin. Un joli portrait de femme, un joli portrait de mère et ce thème universel et compliqué de la relation mère-fille. Jane Birkin et Charlotte Gainsbourg seront avec nous à 7h50.
Et à 8h20, le grand entretien de la matinale avec le président du groupe LREM à l'Assemblée nationale, Christophe Castaner. Le standard est ouvert. A-t-on vos questions au 01 45 24 7000 ?
France Inter.
Près de 22 000 patients hospitalisés pour Covid. Il y a une semaine, il y en avait 16 000. Alors pour affronter cette vague, le gouvernement marche sur deux jambes. Vaccination, on le sait, on y vient. Et tests, outil essentiel de maîtrise de l'épidémie selon le porte-parole de l'exécutif. 10 millions de personnes sont testées chaque semaine et le gouvernement veut en faire plus avec la mise en place de centres de dépistage. Alors que les queues s'allongent devant les laboratoires d'analyse de tests PCR, en coulisses, c'est aussi l'embouteillage. Anne Orenstein s'est rendue au plateau de microbiologie Biogroup à Levallois où on analyse un tiers des PCR effectués dans les 50 labos du groupe en Ile-de-France.
Rendez-vous est pris à 9h avec le biologiste responsable du plateau, Vincent Vieillefond. Il fallait arriver avant les premiers prélèvements de la journée. Raté, un coursier vient déjà de passer.
Là, il y en a à peu près 200 déjà. C'est vraiment une goutte d'eau par rapport à ce qui va nous arriver aujourd'hui parce qu'en ce moment, chaque jour, on traite entre 9 et 10 000 PCR.
Les techniciens de PCR, avec leur tête à Mina Fazoul, ça fait déjà depuis longtemps.
Nos horaires, ça commence de 5h du matin jusqu'à minuit, voire 1h, 1h30 du matin, jusqu'à éponger toutes les demandes du jour.
Les machines s'arrêtent donc pendant la nuit, 5h sans analyse. C'est trop, selon Vincent Vieillefond, trop, mais incompressible.
En 5h, je pourrais en faire beaucoup. Simplement, il y a un moment où il faut prendre soin de nos équipes, il faut prendre soin des gens, c'est le plus important. Mais si on avait des bras supplémentaires, ça nous aiderait, mais pas n'importe quel bras.
Et oui, la dextérité acquise en 2 ans de pandémie ne s'apprend pas dans les livres. Aujourd'hui, les techniciens réussissent à obtenir un résultat en 3 heures, 2 heures de moins qu'en mai 2020, mais l'afflux de tests à analyser grippe la machine.
Là, on est clairement au-delà de ce qu'on peut traiter dans des conditions correctes. Donc les délais s'allongent, mais on ne tient pas non plus à ce qu'ils s'allongent trop, ça n'a plus de sens, c'est la raison pour laquelle on essaye d'adapter nos prélèvements à nos capacités.
Biogroup limite donc désormais à 30 000 le nombre de PCR effectués chaque jour dans ses laboratoires franciliens. L'enjeu, c'est aussi de pouvoir continuer à analyser les autres prélèvements.
Et c'est un reportage à retrouver aussi sur franceinter.fr. Les tests antigéniques ou autotests, les parents d'élèves, les pratiquent quasi quotidiennement pour l'école. Côté enseignants et personnel, c'est l'épuisement, protocole changeant, impossibilité de faire cours normalement. Tous les syndicats de l'éducation nationale, y compris ceux des chefs d'établissement et des inspecteurs, ce qui est rare, appellent à une grève qui s'annonce très suivie jeudi. Autre secteur qui surveille les soubresauts de l'épidémie, la chaîne de l'agroalimentaire, des agriculteurs aux distributeurs. Ce n'est pas encore la panique, mais pour anticiper, le ministre de l'Agriculture convoque aujourd'hui à Bercy les acteurs concernés. Pour l'Association nationale des industries alimentaires, cette réunion est la bienvenue. Écoutez son président Jean-Philippe André.
Ce qu'on constate, c'est quand même une forte évolution des contaminations. Des taux d'absentéisme qui étaient encore dans les standards de la profession de 5 à 6%. Aujourd'hui, on commence à avoir des exemples d'absentéisme à 15%. Dans ma propre entreprise, j'avais jusqu'à quelques temps une dizaine de cas Covid. J'en ai à ce matin une trentaine. Est-ce que ça a ou ça n'aurait pas de conséquences sur la chaîne alimentaire, sur le transport et tout ça? Ça va très vite. La situation est extrêmement tendue. Les gens sont inquiets. C'est extrêmement perturbant. Donc je pense qu'il est urgent de ne plus attendre. La réunion a ce mérite-là. Posons-nous les questions maintenant, tout de suite, fixons les règles du jeu sur l'ensemble de la filière de manière à ce que il n'y ait pas de conséquences pour le citoyen consommateur. Il faut faire en sorte que cette réunion serve aussi à anticiper tous les scénarios qui pourraient se passer dans les toutes prochaines semaines.
Jean-Philippe André, président de l'ANIA, qui représente 15 000 entreprises avec 4 000 comptes. Et pendant ce temps, le projet de loi sur le pass vaccinal avance, étudié aujourd'hui en commission au Sénat, avant d'arriver demain dans l'hémicycle. La majorité, les Républicains, veut y mettre sa patte, Anne Souhaitemont.
Pas de coup du rideau à attendre cette semaine au Palais du Luxembourg, les sénateurs vont ferrailler sur le fond. Premier point sur lequel la majorité de droite compte amender le texte, la durée du pass vaccinal. Les LR veulent un mécanisme de péremption, comme l'explique leur chef de file Bruno Retailleau.
On veut que ce pass-là soit mieux encadré pour qu'il puisse être caduque dès lors que la situation sanitaire s'améliorerait. Il n'est pas question de s'habituer à vivre dans une société du contrôle permanent.
Mais alors à quelle durée limiter le pass? Les sénateurs hésitent encore entre deux options. Option, 3 mois avec un gouvernement si la situation l'exigeait qui referait voter un texte ou une durée jusqu'à fin juin après les élections. Autre ligne rouge pour le Sénat, le pass vaccinal dans les entreprises. Le texte ne le prévoit pas, mais la droite sera très attentive à tout amendement allant en ce sens. Troisième et dernier sujet sur lequel les LR veulent réécrire le texte, les contrôles d'identité dans les bars et restaurants. La plupart des sénateurs de droite y sont fermement opposés.
Un bistrotier n'est pas un officier de police judiciaire.
Mais face à des professionnels prêts à tout pour rester ouverts malgré la vague Omicron et les plus de 300 000 contaminations par jour, les élus pourraient se raviser et voter l'article tel quel.
Signe en tout cas des tensions que soulève ce pass. Le député La République En Marche de Saint-Pierre-et-Miquelon va porter plainte. Il a été agressé devant son domicile hier par des manifestants anti-pass sanitaire qui s'appliquent mercredi sur l'île. Dans le sud-ouest aussi, des élus sont agressés. On en parle dans le journal de 7h30. À l'étranger, vaccin obligatoire pour les plus de 50 ans en Italie à partir d'aujourd'hui. Et en Australie, on le sait, les étrangers sont interdits de voyage et pour entrer dans le pays doivent être complètement vaccinés. La planète est au courant grâce à Novak Djokovic. Bonjour Winnie Claret.
Bonjour Anaïs.
L'audience de la Cour fédérale de Melbourne a débuté pour savoir si le champion pourra disputer l'Open d'Australie tennis et la justice semble se montrer à l'écoute.
En tout cas, le juge fédéral en charge de l'audience se dit perturbé par le traitement réservé au numéro 1 mondial. À son arrivée à l'aéroport de Melbourne mercredi dernier, il a été retenu toute la nuit par les agents des douanes et forcé à éteindre son téléphone au moment où son visa était retoqué. Depuis 5 jours, il est détenu dans un hôtel où se trouve aussi une trentaine de réfugiés. Et puis sur le fond, le juge se demande ce que Djokovic aurait pu faire de plus pour prouver son exemption à la vaccination anti-Covid. Lui qui a montré des documents signés par des experts éminemment qualifiés, dit le magistrat. En fait, un test positif au Covid-19 à la mi-décembre. Sauf que le gouvernement australien martèle que seuls les voyageurs complètement vaccinés ont le droit d'entrer sur le territoire. L'imbroglio n'est pas fini. L'audience a repris juste avant 6h du matin, heure française, 16h en Australie, et a journé dans la foulée à la demande de l'avocat du gouvernement australien. On attend toujours la reprise.
La reprise tout à l'heure en fin de matinée. Rendez-vous est pris. Merci Winnie Claret.
Il est 7h08, semaine diplomatique intense pour désamorcer, Anaïs, la crise explosive de l'Ukraine.
Discussion entre hauts responsables russes et américains hier soir qualifiée de compliquée par les Russes. Washington a déjà prévenu d'un risque de confrontation avec Moscou. La Russie, elle, ne veut pas de concessions. Bref, Bertrand Galichet, les pourparlers qui s'ouvrent aujourd'hui à Genève sont tendus.
C'est dans un climat de défiance réciproque que s'ouvrent à Genève ces pourparlers directs entre les deux superpuissances. Alors que la situation à la frontière est de l'Ukraine est potentiellement explosive, ni les États-Unis ni la Russie ne semblent prêts à faire le premier pas. Et ce n'est pas seulement une posture, car les exigences formulées par Moscou sont déjà jugées irrecevables à Washington, qu'il s'agisse d'un traité excluant l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN ou le retrait des troupes américaines des pays les plus à l'est de l'Alliance Atlantique. Les États-Unis ne veulent surtout pas se laisser entraîner dans un débat sur l'OTAN. Pour eux, la question est celle des frontières de l'Ukraine, dont l'intégrité doit être rétablie, au lieu d'être menacée par les dizaines de milliers de soldats russes rassemblés ces derniers mois à proximité. Les dénégations de Moscou sur une possible invasion du territoire ukrainien ne rassurent pas Washington. Les États-Unis pourraient toutefois accepter des discussions sur la question des missiles en Europe et sur les exercices militaires menés par chacun des deux pays.
Et on y reviendra tout à l'heure après le journal de 8h avec Pierre Pulaski. À New York, ce serait un chauffage d'appoint dans une chambre à coucher en plein hiver qui aurait embrasé tout un immeuble du Bronx. Un des pires incendies de l'histoire récente de la ville, selon le maire, 19 morts, dont des enfants et une soixantaine de blessés. Encore 4 ans de prison prononcés contre Aung San Suu Kyi, l'ex-dirigeante condamnée cette fois pour importation illégale de talkie-walkie. Déjà condamnée pour d'autres faits en décembre, elle risque au total des décennies de détention.
Il est 7h10, vigilance rouge, pluie, inondation crue dans le sud-ouest.
5 départements sont concernés, les Pyrénées-Atlantiques et les Landes ont rejoint les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne, l'Ariège et les Pyrénées-Atlantiques en vigilance maximale. Pour l'instant, l'eau monte sur la Nive, la Nivelle, le Gave d'Oléron. Le pire est attendu pour cet après-midi. La préfecture demande de limiter les déplacements et de garder les enfants si possible, sans compter les risques d'avalanche dans les Pyrénées. Beaucoup de neige tombée hier et ça va continuer toute la journée. Emmanuel Macron, lui, se rend aujourd'hui dans la vallée de la Roya et à Nice, la vallée de la Roya touchée par les crues meurtrières de 2020. Le chef de l'État sera aussi à Nice, chez Christian Estrosi, désormais soutien du président pour parler sécurité. Un recours déposé ce matin à 10h contre l'État pour mieux protéger la biodiversité. 5 associations estiment que l'État ne tient pas ses objectifs de réduction des pesticides et selon elles doit être donc tenu pour responsable de la disparition des insectes. Il dirigea le centre Pompidou et Radio France au début des années 90. Le décès hier à l'âge de 90 ans de Jean Maheu, ancien PDG de la Maison Ronde, Alexis de Meyer.
L'audiovisuel public, c'est du rodéo. On croit qu'on va tomber, mais on se rattrape. Jean Maheu file la métaphore équestre lorsqu'il décrit son septennat semé d'embûches dans la Maison Ronde. D'abord sous le gouvernement Rocard, puis, cohabitation oblige, sous Balladur. D'autant que cet énarque sortait alors de 6 années plus tranquille à la tête du centre Pompidou. Interactualité le 10 février 89.
De la maison d'acier à la maison ronde, de la maison de l'art à celle de la radio, les 9 sages du Conseil supérieur de l'audiovisuel ont donc choisi Jean Maheu pour succéder à Roland Faure à la présidence de Radio France.
Je suis très heureux parce qu'il s'agit d'une très belle responsabilité. Ce qui m'importe, c'est aussi de tâcher de marquer davantage encore la différence par rapport aux autres radios.
Jean Maheu, enfant du 16e arrondissement, scolarisé à Neuilly, est le fils du philosophe René Maheu, ami de Sartre et Beauvoir et directeur de l'UNESCO. Dans les années 60, le futur patron de Radio France débute sa carrière de haut fonctionnaire en conseillant Michel Debré à Matignon et De Gaulle à l'Élysée. Il rencontre Malraux, devient directeur de la musique et de la danse. Très proche du comédien Michael Lonsdale, passionné par Kafka depuis l'adolescence, Jean Maheu publie plusieurs recueils de poèmes. Il présida d'ailleurs à la fin des années 90 la Maison de la Poésie à Paris.
West Side Story, primé cette nuit au Golden Globe, meilleure comédie. The Power of the Dog de Jane Campion devient deuxième film réalisé par une femme à remporter le prix du meilleur film dramatique. Et puis, un concours de pudding, mais oui, pour le jubilé de platine de la reine Elisabeth, l'une des festivités révélées par Buckingham Palace pour célébrer les 70 ans de règne de la reine d'Angleterre. Ce sera en juin, rassurez-vous, il y aura aussi des défilés et un grand concert.
Merci Anaïs Feugat. Dans 3 minutes, premier épisode de cette nouvelle série, le feuilleton de la France. Aujourd'hui, le pouvoir d'achat, on embarque à bord d'un camion boutique sur les routes de l'Aube.